Puis on va commencer notre troisième leçon dans notre série sur la sanctification biblique. Ce soir, on va regarder deux idées par rapport à ça. Je ne sais pas si on va avoir le temps de les faire les deux, mais on va en faire au moins une. Un, ça va être d'examiner la vraie nature, qu'est-ce que c'est la sanctification. La deuxième, ça va être de regarder les marques visibles de la sanctification. Autrement dit, quelqu'un ne peut pas se sanctifier sans que ça paraisse extérieurement, dans sa manière de penser, dans sa manière de parler, d'agir, etc. Alors, il y a des marques qui sont visibles, et normalement, quand quelqu'un se sanctifie, ça paraît. Alors, dans notre dernière leçon, on avait regardé qu'une connaissance correcte du péché, c'était la compréhension de ça, c'était essentiel pour avoir une idée juste de ce que c'est la sanctification. Sinon, si on n'a pas une idée juste du péché, toutes ces précieuses vérités-là risquent de n'être que des mots vides de sens. À soir, on va regarder le sujet de la sanctification, jusqu'à quel point c'est important pour nos âmes. Ça, parfois, je ne suis pas sûr que dans tous les milieux chrétiens, c'est quelque chose qui est vraiment bien compris. Si nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne pouvons pas être sauvés. Selon la Bible, trois choses sont absolument nécessaires et essentielles pour le salut. La première, la régénération, autrement dit la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau par le Saint-Esprit, comment qu'il essaiera, par tous les efforts de son être, à se transformer par lui-même, ça ne marchera pas. La deuxième chose, c'est la justification. Normalement, quand quelqu'un a la régénération, il est justifié par sa foi en l'œuvre et en la personne de Jésus-Christ. Donc, l'aspect qu'il a, il a pris, notre punition, notre place, il a subi l'équivalent de ce qu'on aurait dû subir à notre place et il a accompli la loi à notre place. Deux choses qui étaient absolument essentielles aux yeux de Dieu. Et la troisième, c'est justement la sanctification. Mais les trois choses, souvent, on a tendance à les séparer, à penser, OK, la personne est sauvée, régénérée, OK, elle est justifiée, mais maintenant, tu peux vivre à peu près n'importe comment, puis plusieurs pensent que ça marche, mais c'est pas ça que les Écritures nous enseignent. Si une personne qui se prétend sauvée n'a pas les trois éléments en même temps, sont soudés intimement, tu peux pas dire « je suis régénéré, puis je suis justifié, puis bon, je vais mener ma vie comme je veux, puis je me sanctifierai pas ». Ça fonctionne pas comme ça. Alors, dans la leçon, aujourd'hui, on va examiner la vraie nature de la sanctification et ses marques visibles. Et éventuellement, on va, dans nos leçons prochaines, dans les prochaines semaines, on va essayer de faire la distinction entre la justification et la sanctification. Des fois, on pense qu'on le sait, mais quand on rentre dans les détails, on se rend compte qu'on ne le sait peut-être pas tant que ça. Et dans les Écritures, c'est la volonté de Dieu qu'on se sanctifie. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, dans le chapitre 4, dans le verset 3, ça dit « c'est ici en effet la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés ». Alors Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on reste dans nos péchés et qu'on ne soit pas transformé pour ressembler de plus en plus à l'image de Jésus-Christ à chaque jour. La façon, je pense, une des façons intelligentes de procéder pour savoir qu'est-ce que c'est la sanctification, c'est justement pourquoi je l'ai amené ce soir. Parce que je ne sais pas si vous en avez une copie, si vous n'en avez pas une copie, à l'église dimanche, je vous les demanderai. Et dimanche, avant le culte, je vais mentionner aussi, chacun devrait en avoir une copie. Parce que il y a tellement de choses qu'on dit croire, mais je serais curieux des fois de faire venir des gens en avant, un par un, puis de les questionner sur toutes les... Il y a 32 chapitres là-dedans, avec 5-6 paragraphes chacun. Si on ferait venir les gens en avant puis on leur poserait des questions, on s'apercevrait qu'on dit que c'est notre confession de foi. Notre confession de foi, donc on dit qu'on croit à ça. Mais pour y croire, il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on a pris le chapitre 13, parle de la sanctification dans cette brochure-là, confession de foi, 1689. Quand vous regardez, on va les lire rapidement, mais on va quand même faire des petits commentaires, parce que voyez-vous, dans les Écritures, il nous donne trois paragraphes, au chapitre 13. Donc ça dit, pour la sanctification, pour expliquer qu'est-ce que c'est. Ceux qui sont unis au Christ. Donc, pour se sanctifier, il faut que Christ nous ait mis en lui, qu'on ait quelque part reçu la nouvelle naissance. Donc, ceux qui sont unis au Christ, qui sont efficacement appelés et régénérés. Donc, si tu as été né de nouveau, à quelque part, tu devrais être dans un processus de sanctification. Ça dit « ayant un cœur nouveau et un esprit nouveau ». Donc, quand on vient au monde spirituellement, on vient avec un cœur nouveau, on vient avec un esprit nouveau. Créés en eux, en vertu de la mort et de la résurrection du Christ, sont, en plus, réellement et personnellement sanctifiés, en vertu de la même puissance, par sa parole et son esprit qui habitent en eux. Le règne du péché est détruit, et leurs nombreuses passions sont progressivement affaiblies et mortifiées. Autrement dit, quand on est des pécheurs, on le sait, puis des passions en nous, pécheresses, il y en a à tonnes. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'ils sont progressivement affaiblis et sont progressivement mortifiés. C'est l'Esprit de Dieu qui mortifie notre vieille nature, tout ce qu'il y a en nous de mauvais. Alors qu'eux-mêmes sont de plus en plus vivifiés et affermis dans toute grâce salutaire en vue de la pratique de la vraie sainteté. Et le verset 6, pas le verset 6, mais la dernière partie du paragraphe 1, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est très solennel, hein? La Bible nous avertit que si on n'a pas de sanctification dans notre vie, on ne verra pas le Seigneur. À quelque part, si on n'a pas de sanctification, c'est peut-être tout simplement le signe que quelqu'un n'est pas régénéré, n'est pas né de nouveau. Donc, s'il n'est pas né de nouveau, c'est normal qu'il ne se sanctifie pas. Mais si tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu ne te laissera pas dans un état de pécheur qui demeure stable. Il va t'améliorer, il va te rendre meilleur de jour en jour. Dans le deuxième paragraphe, il ne faut pas oublier que quand on lit ça, un paragraphe comme ça, à chaque fois que vous avez un petit numéro, vous avez des versets en dessous. Lire ça, comme ça, sans aller voir les versets, c'est une compréhension que je dirais superficielle. Il faut aller voir qu'est-ce que les théologiens ont établi et dit qu'ils ont des versets pour prouver ce qu'ils disent dans le paragraphe 1. Dans le deuxième paragraphe, ça dit « Cette sanctification est opérante dans l'homme tout entier. » Autrement dit, il va changer notre esprit, il va changer notre façon de parler, il va changer notre façon d'agir, l'homme tout entier. Bien entendu, quand on dit l'homme, c'est l'homme et la femme. Bien qu'elle demeure imparfaite durant toute cette vie. Autrement dit, il va changer progressivement, méthodiquement, mais ça ne sera jamais parfait sur cette terre. Il va toujours y rester des restes de corruption en nous. Dans tous les aspects de cette vie, demeurent des restes de corruption qui donnent lieu à une guerre continuelle et implacable. Autrement dit, on a une guerre entre nous, en nous, qui la chair cherche toujours à reprendre sa place, elle cherche toujours à nous redominer, et l'Esprit de Dieu a dit non, 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 ça ne marche pas de même. Écoute-moi, puis fais ce que je te dis, puis utilise les moyens de grâce que le Seigneur t'a donnés, puis tu vas finir par avoir de plus en plus de victoires. La Bible nous dit qu'on se devrait de voguer de victoire en victoire, et non pas de défaite en défaite. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de défaite, mais la marche, la course, la ligne conductrice de notre vie, ça devrait être des victoires, de plus en plus. Si on n'en a pas, c'est peut-être tout simplement parce qu'on n'utilise pas les moyens de grâce que le Seigneur nous a donnés. On les utilise pas ou peu. Dans la troisième paragraphe, ça se dit, « Dans cette guerre, donc la guerre qu'il y a entre la vieille nature et la nouvelle nature qui est dominée par le Saint-Esprit. Dans cette guerre, bien que la corruption rémanente puisse pour un temps prévaloir. Qu'est-ce que ça veut dire? La corruption rémanente, ça veut dire qu'elle revient continuellement. Donc, ça dit, ça peut prévaloir. Autrement dit, c'est en train de nous enseigner qu'on peut avoir des chutes et que pour un certain temps, la chair peut redominer le chrétien. Pour un certain temps. Néanmoins, en raison des ressources permanentes qui lui proviennent de l'Esprit sanctifiant du Christ, l'être régénéré l'emporte. Donc, normalement, il y a un combat, ça peut arriver qu'on perde, ça peut arriver qu'on reste un certain temps dans notre chute, mais l'Esprit ne nous laissera pas là, on va se relever pour continuer. Alors, ainsi, les saints croissent en grâce et perfectionnent leur sainteté dans la crainte de Dieu. Ils désirent ardemment vivre une vie céleste, dans l'obéissance évangélique à tous les commandements que le Christ, le chef et roi de l'Église, leur a prescrit dans sa parole. Je vous conseille très fortement, si vous en avez une copie, retournez dans le chapitre 13, lisez-le lentement, prenez le temps d'aller voir les versets, de méditer, de comprendre qu'est-ce que les Écritures sont en train de nous enseigner. Alors, celui qui suppose que Jésus-Christ a vécu, qui est mort et qui est ressuscité de façon à pourvoir à la justification et au pardon des péchés de son peuple, a encore beaucoup à apprendre. Qu'est-ce qu'il y a encore à apprendre? Qu'il s'en rende compte ou non, il déshonore notre Seigneur béni en faisant de lui un demi-sauveur. Si quelqu'un dit qu'il est régénéré, sauvé, né de nouveau, justifié, mais que tu regardes sa vie puis il n'y a pas de progression dans sa vie, dans les différentes sphères de sa vie, il déshonore le Seigneur, il en fait un demi-sauveur. Voyez-vous, on dit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, je termine toujours mes prières en disant le Seigneur et Sauveur. Le Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui est le maître. Il est le maître sur nous, il est le maître sur tous ses enfants dans l'Église. Mais en fait, il est le maître de tous les hommes, mais d'une façon particulière, maître de nous. Et Seigneur, il faut qu'il soit Seigneur et Sauveur. On peut pas juste dire, je suis sauvé, puis je mène ma vie comme je veux. Je fais comme je faisais anciennement. Il faut que, quelque part, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a réalisé tout ce que les âmes de ses élus avaient besoin. Non seulement de les délivrer de la culpabilité de leur péché par sa mort expiatoire, mais également de la domination de leurs péchés en leur donnant le Saint-Esprit. Pourquoi on peut dominer nos péchés aujourd'hui, puis qu'avant on ne pouvait pas? C'est parce que maintenant, on a l'Esprit de Dieu qui nous habite et qui nous aide, et qui nous conduit, qui nous éclaire. Alors, Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 26. « Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église. » Il s'est livré lui-même pour elle. Afin, ça veut dire afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Voyez-vous, Colossiens 1, 22, il vous a maintenant réconcilié dans le corps de sa chair par sa mort pour vous présenter devant lui, saint, sans tache et irrépréhensible. Et je pourrais vous donner un paquet d'autres versets, mais je vous dis que si jamais vous voulez avoir les notes, parce que j'ai beaucoup de versets que je peux pas mentionner parce que ça serait trop long, là, mais si jamais ça vous intéresse d'avoir les notes que j'ai, c'est plus long, c'est plus expliqué, vous avez juste soit à aller sur Internet et les downloader, on va les avoir bientôt en ligne, ou vous me le dites, puis je vous en imprime des copies. Là-bas, ce qu'on faisait à Rouen, les gens qui venaient le mercredi, je les en donnais tout un set, puis on se préparait comme un genre de petit cartable, on les mettait tous dans un cartable. Et c'est bon qu'occasionnellement, au moins une fois par année, tu revises ça, jusqu'à temps que ça soit bien rentré. Ça prend du temps, vous savez, avant qu'on apprenne nos doctrines et qu'ils soient bien ancrés en nous. Les Saintes Écritures sont pleines de déclarations ou de propositions décrivant l'exacte nature de la sanctification. J'en ai 12. On va essayer de les faire rapidement. La sanctification est le résultat invariable de l'union vitale avec Christ que la vraie foi donne aux chrétiens. Autrement dit, on l'a mentionné un peu tantôt, si on n'est pas uni à Christ, on ne pourra pas se sanctifier parce que c'est un des principes fondamentaux. Voyez-vous, dans Jean 15, versets 5 et 6, le Seigneur, il dit « Je suis le cèpe, il est l'arbre, autrement dit. Et vous, vous êtes les sarments, donc vous êtes les branches. Si une branche n'est pas unie au tronc, la sève ne passe pas. Ben, c'est exactement dans le domaine spirituel la même chose. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La deuxième observation qu'on peut faire concernant la nature de la sanctification, c'est l'aboutissement. En anglais, ils disent « the outcome », c'est quelque chose qui sort. L'aboutissement de la conséquence inséparable de la régénération. Si on est régénéré, si on est né de nouveau, automatiquement, l'aboutissement de tout ça, ça va être la sanctification. J'aurai encore plein de versets, mais on va essayer d'aller plus vite. La troisième observation, la sanctification est la seule preuve certaine de l'habitation du Saint-Esprit qui est essentielle au salut. Voyez-vous, dans Galates 5, versets 22 et 25, ça dit « Mais le fruit de l'Esprit ». Autrement dit, tu es en train de nous dire que si on est habité par l'Esprit, il va sortir des fruits de notre vie. Il dit « Le fruit de l'Esprit est la charité ou l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Quand on mentionne ces 12 choses-là, est-ce que vous reconnaissez tout cela dans vos vies? Moi, j'avoue que les versets m'humilient un peu, parce que ça dit des choses qu'on le sait qu'on n'a pas tout ça. Mais normalement, le fruit de l'esprit, c'est ça que ça devrait donner. À la quatrième chose, la sanctification est la seule marque certaine de l'élection divine. Si tu veux démontrer que quelqu'un est élu, ben c'est parce qu'il va se sanctifier. Voyez-vous, Éphésiens 1, 4, « Selon qu'il nous a élus en lui, en parlant de Christ, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. » Et je pourrais vous donner encore plein d'autres versets. La cinquième observation, la sanctification est une chose qui est toujours visible. Plus ça fait des années qu'une personne est chrétien, plus ça devrait transparaître dans sa façon d'être qu'il est chrétien. Ta façon de penser, la façon de contrôler son caractère, etc., etc. Je ne te dis pas que c'est la perfection, mais ça devrait y avoir une progression. Donc la sanctification est une chose qui est toujours visible. Voyez-vous, Luc 6, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit « Il n'y a point de bon arbre qui produise de mauvais fruits, ni de mauvais arbre qui produise de bons fruits, car chaque arbre se connaît par son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne cueille pas des raisins sur un buisson. » Sixième observation, la sanctification est exigée du croyant et il en est responsable devant Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. » Le verset 3 est d'une grande importance. Car sa divine puissance, autrement dit Dieu, nous a donné, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, s'il donne, tout ce qui regarde à la vie et à la piété. Il nous l'a tout donné. Si on ne se sanctifie pas, c'est parce qu'on utilise mal qu'est-ce qu'il nous a donné, ou on l'utilise peu ou pas. La septième observation, la sanctification comporte de la croissance et des degrés. Vous avez sûrement déjà rencontré un paquet de chrétiens dans vos vies. Certains, on dirait que ça paraît plus qu'ils sont chrétiens par leur façon d'être, sont plus généreux, sont plus à l'écoute, sont plus, ils vont donner des services, etc., etc., etc. Alors, normalement, il devrait y avoir une croissance dans la sanctification dans nos vies. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, ça dit « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire et maintenant et pour le jour d'éternité. Amen. » 8e observation, la sanctification s'accomplit par l'utilisation de moyens de grâce. On avait déjà parlé à l'Église que je vais emmener une série là-dessus. Les moyens de grâce sont des cadeaux du Seigneur. Nous devons les utiliser régulièrement et abondamment. Ils sont, on va les nommer, nos rapports avec la Bible, écouter la Bible, lire la Bible, méditer la Bible, mémoriser la Bible, étudier la Bible, la prière. On est dans une soirée de prière. Si vous êtes ici, c'est parce que vous utilisez un moyen de grâce que le Seigneur vous a donné. La prière peut prendre plusieurs formes. Ça peut être individuel, ça peut être une prière de couple. Quand on est marié, on se devrait d'avoir un culte de couple. Et ça peut être familial. Quand on est en famille, on se devrait d'essayer de faire un culte en famille. Et il y a aussi la prière en église. C'est ce qu'on est en train de faire ce soir. L'assistance aux réunions de l'église locale. Les cultes du dimanche, la soirée de prière et toutes les autres réunions, même si ce n'est pas des réunions nécessairement officielles, on se devrait de toujours faire un effort pour participer à tout ce qui est chrétien dans l'Assemblée parce que ça va nous faire croître dans le Seigneur. Il y a d'autres moyens de grâce. Le repas du Seigneur, mais ça, faut être à son culte dimanche matin si on veut le prendre. L'évangélisation. Le Seigneur nous commande de le faire. Si on le fait, on va être béni. Et le service, peu importe ce qu'on fait dans une assemblée, n'importe quel, on parlait des gens qui sont allés peinturer l'église, ce n'est un service. Il faut servir, il faut se mettre au service des autres. J.C. Ryle faisait cette très judicieuse observation. Il n'y a pas de gain spirituel sans effort coûteux. En anglais, c'était « There are no spiritual gains without pains. » Autrement dit, il n'y a pas de gain sans que ça soit obligé que tu donnes un petit peu d'effort. Parce que la sanctification, ça, bien sûr, c'est l'œuvre divine, mais ça implique que tu participes. La 9e, c'est la sanctification, n'empêchera pas le croyant d'expérimenter un grand combat spirituel intérieur entre la chair et l'esprit. Et je me mettais à mis une note, tous les journaux intimes et les biographies de tous les grands saints et grands saintes de l'histoire, il y a plein de livres qui existent, j'en ai lu au moins 15-20, et c'est vraiment partout présent, ces gens-là connaissent des très grands combats à l'intérieur d'eux autres, entre la chair et l'esprit. La 10e, la sanctification n'est pas une chose qui peut justifier un homme, mais elle plaît à Dieu. Autrement dit, si quelqu'un ne serait pas sauvé et qu'il essaierait de se sanctifier par lui-même, il ne pourrait pas aller au ciel par ça. Parce qu'il faut la foi en Jésus-Christ d'abord. Donc la sanctification, ce n'est pas une chose qui peut justifier un homme, mais Dieu dit qu'il prend plaisir à ça. Hébreux 13, 16. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Dieu aime ça. Voyez-vous, Colossiens 3:20, « Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. » 11e chose, la sanctification est la seule chose qui nous sera demandée comme absolument nécessaire, comme un témoin ou une preuve de notre caractère lors du grand jugement. Et la dernière, la 12e, la sanctification est absolument nécessaire pour nous entraîner et nous préparer à la vie au ciel. C'est bizarre, parce que des fois, quand la première fois que j'ai lu ça, ça disait, si le Seigneur vous prendrait dans votre état de pécheur, sans préparation, sans sanctification, il vous mettrait au ciel, tu serais malheureux. Il te prépare l'esprit, la manière. Tout dans ta vie contribue à te préparer à la vie au ciel. Alors, on termine encore avec le fameux Hébreux 13, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, on va arrêter. J'avais un deuxième point, comme on vous avait dit. La semaine prochaine, on regardera les signes visibles de la sanctification. Alors, il y a toute une série de signes qui devraient être visibles dans nos vies lorsque on contribue à notre sanctification. Alors, on va arrêter là-dessus.
Je peux-tu proposer quelque chose?